La main de singe. William Waymark Jacobs. Chapitre 1. Au dehors, la nuit était froide et humide, mais dans le petit salon de la villa La Burnham, les stores étaient baissés et le feu flambait gaiement. Mr. White faisait une partie d'échecs avec son fils, et sa conception du jeu était si contraire aux règles établies, il mettait à chaque instant son roi dans des situations si critiques que sa femme elle-même, assise auprès de l'âtre en train de tricoter, ne pouvait s'empêcher de lui en faire l'observation.
« Entends-tu le vent ?»
s'écria Mr. White, qui, venant un peu tard de s'apercevoir d'une erreur fatale, cherchait avec ingénuité à empêcher son fils de la constater.
« J'entends, » répondit le fils, les yeux obstinément fixés sur l'échiquier tandis qu'il allongeait la main.
« Échec !»«
Je doute qu'il vienne ce soir, » dit le père en jouant à son tour.
« Et mat !»
riposta le fils.
Voilà ce que c'est d'habiter loin de tout,
cria brusquement Mr. White avec une énergie que rien ne justifiait.
C'est le coin le plus infect et le plus détestable que j'ai jamais vu. L'allée est un marécage et la route un torrent. Ma parole, c'est à se demander où les gens ont la tête. Sous prétexte qu'il n'y a que deux maisons dans la rue, on trouve que c'est inutile de s'en occuper ?
« Ça ne fait rien, mon ami, » lui dit sa femme d'une voix apaisante. « Tu gagneras peut-être la partie suivante. » Mr. White redressa brusquement la tête juste à temps pour intercepter un coup d'œil d'intelligence entre la mère et le fils. Il cessa de maugréer et dissimula un sourire coupable sous sa maigre barbe grise.
« Le voici !»
dit Herbert White, qui venait d'entendre la barrière claquer et un pas lourd se rapprocher de la porte. Le vieillard se précipita pour aller ouvrir et on l'entendit murmurer quelques paroles apitoyées à l'adresse du nouveau venu, lequel s'apitoya lui-même sur son propre sort, si bien que Mrs. White se prit à tout sauter en murmurant « Allons, allons !» tandis que son mari rentrait, suivi d'un grand gaillard aux épaules carrées, aux yeux chassieux et au visage rubicon.
« Le sergent-major Maurice !» dit-il en manière de présentation.
Le sergent-major serra les mains à la ronde et, prenant place dans le fauteuil qu'on lui offrait près du foyer, couva du regard son hôte qui allait chercher du whisky et des verres et mettait une bouilloire en cuivre sur le feu. Au troisième verre, ses yeux devinrent plus pétillants et, se carrant dans son fauteuil, il se mit à parler avec volubilité. Le petit cercle familial s'était aussitôt resserré autour de lui et chacun écoutait avec le plus vif intérêt ce voyageur qui avait visité les coins les plus reculés et qui évoquait moult scènes fantastiques, exploits prodigieux, batailles, fléaux et peuplades sauvages.
Et il a fait ce métier-là pendant 21 ans, dit Mr. White en se tournant vers sa femme et son fils.
Quand il est parti, c'était un vrai gamin. Maintenant, regardez-le.
« Cela n'a pas l'air de lui avoir fait trop de mal, » constata poliment Mrs. White.
« Je voudrais bien connaître l'Inde, moi aussi, » dit le vieillard. « Oh, uniquement pour visiter, vous savez. »«
Vous êtes bien mieux où vous êtes, »
déclara le sergent-major en secouant la tête. Il posa son verre vide, soupira légèrement et se remit à secouer la tête.
J'aurais pourtant bien aimé voir tous ces vieux temples, ces fakirs et ces sorciers,
reprit le vieillard.
Qu'est-ce que donc que cette histoire que vous aviez commencé à me raconter l'autre jour, Maurice? Ça parlait d'une main de singe, il me semble.
Oh, ce n'est rien, répondit avec vivacité le soldat. Du moins, rien qui vaille la peine d'être raconté.
Une main de singe? Fit Mrs. White avec curiosité.
Mon Dieu, c'est comme qui dirait une manière de sortilège,
expliqua le sergent-major d'un ton détaché. L'oreille tendue, ses trois hôtes s'étaient penchés en avant. D'un geste distrait, le visiteur porta son verre vide à ses lèvres, puis le reposa sur la table. Une fois de plus, son hôte le lui remplit.
À la voir,
reprit le sergent-major en fouillant dans sa poche. « On dirait une main de momie desséchée. »
Il sortit de sa poche un objet de petite dimension qu'il exhiba à ses auditeurs. La vieille dame se recula en faisant la grimace, mais son fils le prit dans sa main et l'examina avec intérêt. « Et qu'a-t-elle de spécial, cette main de singe ?» s'enquit Mr. White en reprenant l'objet à son fils et en le déposant sur la table après l'avoir regardé à son tour.
« Un vieux fakir, un très saint homme, lui a jeté un charme, » expliqua le sergent-major. Il voulait démontrer que notre vie est régie par le destin, que ceux qui veulent aller à l'encontre de leur destinée en sont toujours punis. Grâce à ce charme, trois personnes distinctes pouvaient voir se réaliser trois souhaits chacune.
Il avait dit cela d'un ton si impressionnant que ses auditeurs parurent quelque peu gênés d'avoir pris la chose en riant.
Mais alors, monsieur, pourquoi n'avez-vous pas formulé vos trois souhaits ? Reprit du tac au tac Herbert White.
Le soldat le considéra de cet air de condescendance avec lequel les hommes parvenus à l'âge mûr traitent la trop présomptueuse jeunesse.
« J'ai essayé, » répliqua-t-il avec calme, et sa figure marbrée de rouge devint toute pâle.
« Et vos trois souhaits se sont-ils vraiment réalisés ? » questionna Mrs. White.
« Oui, » répondit le sergent-major, et le bord de son verre heurta ses dents.
Et à part vous, d'autres personnes ont-elles formulé des souhaits ? Insista la vieille dame.
Oui, dit le soldat. Le premier a vu ses trois souhaits réalisés. J'ignore quels étaient les deux premiers, mais pour le troisième, c'est la mort qu'il a souhaité. C'est comme cela que j'ai hérité de la main.
Il avait un tel air de gravité que tout le monde s'était tu.
« Mais puisque vous avez eu vos trois souhaits, Maurice, à présent elle ne vous sert plus à rien, » fit enfin remarquer le vieillard.
« Alors pourquoi la conservez-vous ? »
Le soldat secoua la tête. « Une idée comme cela, sans doute, » déclara-t-il d'une voix hésitante. « J'avais bien songé à la vendre, mais je crois que je n'en ferai rien. Elle a déjà causé bien assez de malheurs. Du reste, personne ne voudrait l'acheter. » Il y en a qui se figurent que c'est un conte de fées et ceux qui y croient à moitié demandent à la prendre à l'essai avant de me payer.
« Si vous aviez encore droit à trois souhaits, » demanda le vieillard, « les utiliseriez-vous ou non ?»«
Je ne sais pas, » fit l'autre. « Je ne sais pas. »
Il ramassa le fétiche sur la table, le balança un instant entre son pouce et son index, puis le jeta soudain dans le feu.
« White !» poussant un petit cri, se baissa et l'arracha aux flammes. « Vous feriez mieux de la laisser brûler, » dit le soldat d'un ton grave.
« Puisque vous n'en voulez plus, Maurice, » insista le vieillard.
« Faites-moi cadeau. »«
Non, »
riposta son ami avec obstination. « Moi, je l'ai jeté au feu. Si vous la gardez, je ne veux pas être responsable de ce qui vous arrivera. Montrez donc que vous êtes un homme sensé. Remettez-la dans le feu. »
Mais le vieillard secoua la tête en contemplant sa nouvelle acquisition.
« Comment s'y prend-on » questionna-t-il.
« On la tient dans la main droite et l'on prononce un souhait, » expliqua le sergent-major. « Seulement, méfiez-vous, je vous ai prévenu. »
« Cela ressemble à un conte des mille et une nuits, » constata Mrs. White en se levant et en commençant à mettre le couvert. « À ta place, moi je demanderais quatre paires de mains pour ma femme. »
Son mari reprit dans sa poche le talisman qu'il venait d'y mettre. Et tous trois partirent d'un franc éclat de rire, comme le sergent-major, la mine inquiète, s'est lancé vers lui pour le retenir.
« Si vous tenez à formuler un souhait, » fit-il d'une voix bourrue, « que ce soit au moins quelque chose de sensé. »
Mr. White remit le talisman dans sa poche. Et, approchant des chaises de la table, invita son ami à y prendre place. Le dîner créa une diversion et le talisman se trouva à peu près oublié. Puis, après le repas, les parents et leurs fils réclamèrent tous un nouvel épisode des aventures du soldat dans l'Inde. Si l'histoire de la main de singe n'est pas plus vraie que toutes celles qu'il nous a racontées,
dit Herbert, quand la porte se fut refermée sur leur invité, qui s'était sauvé juste à temps pour reprendre le dernier train. « Je crois que nous n'aurons pas grand succès avec. » « Lui as-tu donné quelque chose en échange, père ?» s'enquit Mrs. White en épiant la physionomie de son mari.
« Oh, peu de choses, »
répondit-il en rougissant légèrement. « Il ne voulait rien accepter, mais je l'y ai forcé. Mais il m'a encore recommandé de m'en défaire. »
« Plus souvent, » dit Herbert en feignant d'être scandalisé.
« Enfin, nous sommes sur le point de connaître d'un seul coup la richesse, la gloire et le bonheur. Fais le souhait d'être empereur, père. Comme cela, tu seras sûr de porter la culotte dans ton ménage. »
Il fit le tour de la table en courant, poursuivi par Mrs. White, qui, pour se venger de l'affront, s'était armée d'un appui-tête. Mr. White sortit la main de singe de sa poche et la considéra d'un air perplexe.
« Je ne sais vraiment pas quel souhait formuler. »« Je t'assure, » dit-il d'un ton hésitant, « j'ai l'impression d'avoir déjà tout ce que je peux désirer. »«
Si tu rentrais seulement dans le prix de ta maison, tu serais bien heureux, n'est-ce pas ?» lui dit Herbert en lui posant la main sur l'épaule.
« Eh bien, souhaite qu'il te tombe 200 livres, ça fera juste le compte. »
Le père, un peu penaud de sa propre crédulité, leva le talisman à bout de bras en souriant, tandis que le fils, prenant un air solennel que démentait le coup d'œil malicieux qu'il lança à sa mère, s'asseyait au piano et se mettait à jouer quelques notes impressionnantes.
« Je désire avoir 200 livres !» prononça distinctement le vieillard.
Un accord vigoureusement plaqué par le jeune homme ponctua sa phrase. Mais au même instant, un cri angoissé s'échappa de la gorge du vieillard. Sa femme et son fils se précipitèrent vers lui.
« Elle a bougé !»
s'écria-t-il en regardant l'objet qu'il venait de jeter avec dégoût sur le plancher.
« Pendant que j'énonçais le souhait, elle s'est tordue dans ma main comme un serpent !»«
En attendant, je ne vois pas l'argent, » dit le fils en ramassant le talisman et en le posant sur la table.
« Et nous ne le verrons jamais, j'en suis bien sûr. »
« C'est ton imagination. Tu t'es figuré cela, père, » dit Mrs. White à son mari en lui jetant un regard anxieux. Il secoua la tête.
« N'importe, il n'y a pas de mal, mais cela m'a quand même donné un coup. »
Ils retournèrent s'asseoir au coin du feu et les deux hommes achevèrent leur pipe. Au dehors, le vent soufflait plus fort que jamais et le vieillard tressaillit nerveusement en entendant une porte claquer à l'étage. Un silence inaccoutumé et déprimant s'appesantit sur eux trois jusqu'au moment où le vieux couple monta se coucher.
« Vous allez certainement trouver le magot ficelé dans un sac au milieu de votre lit, » dit Herbert en leur souhaitant le bonsoir.
« Et vous trouverez sans doute aussi quelques gnomes horribles accroupis sur le haut de l'armoire qui vous regardera empocher votre bien mal acquis. »
Il resta seul, assis dans l'obscurité, à contempler le feu qui se mourait, où il crut voir passer des figures grimaçantes. La dernière était tellement effrayante, tellement simiesque, qu'il la fixa avec une véritable stupeur. Elle finit par lui paraître si vivante qu'une sorte de malaise s'empara de lui. Il allongea la main pour prendre sur la table son verre d'eau afin d'en répandre le contenu sur le feu, mais ce fut la main de singe que rencontrèrent ses doigts. Et, frissonnant malgré lui, il les essuya sur son veston et monta se coucher.
Thank you.
Chapitre 2. Le lendemain matin, lorsqu'il s'assit à la table du petit déjeuner, tout baigné d'un magnifique rayon de soleil d'hiver, il fut le premier à rire de sa frayeur. La salle à manger avait un aspect prosaïque et accueillant qu'elle n'avait pas la veille au soir, et la vilaine petite main ratatinée avait été jetée sur le buffet avec une insouciance qui témoignait du peu de cas que l'on faisait de ses propriétés magiques. « Tous les anciens soldats doivent être pareils, » dit Mrs. White. « Comment avons-nous pu écouter de pareilles sornettes? Est-ce que nous vivons à une époque où il suffit de prononcer un souhait pour qu'il se réalise? Et même si c'était possible, en quoi 200 livres pourraient-elles te faire du mal, père ?»« À moins qu'elles ne lui dégringolent du haut du ciel sur la tête, » s'écria Herbert, toujours prête à plaisanter. « Maurice m'a expliqué, » dit Mr. White, que les choses se passaient d'une manière si naturelle que l'on pouvait fort bien les attribuer à de simples coïncidences. « Eh bien, en tout cas, tâche que l'argent ne t'arrive pas pendant mon absence, » répartit Herbert en se levant de table. « J'ai grand peur quand tu seras riche que tu ne deviennes un vieux grigou dont nous aurons à rougir devant tout le monde. » Sa mère éclata de rire et, l'accompagnant jusqu'à la porte, le regarda s'éloigner sur la route. Revenue à table à côté de son mari, elle se mit à se moquer de sa crédulité, ce qui ne l'empêcha pas, lorsqu'elle entendit passer le facteur, de courir voir ce qu'il avait apporté, ni de maugréer un peu sèchement contre l'insobriété des sous-officiers en retraite, lorsqu'elle s'aperçut qu'il n'y avait au courrier que la facture du tailleur. « Herbert va sûrement te chiner encore ce soir en rentrant, » dit-elle à son mari pendant le dîner. « C'est fort possible, » dit Mr. White en se versant de la bière. « Mais il n'en est pas moins vrai que cet objet a bougé dans ma main. Quant à cela, je le jure. »
Tu l'as cru, dit la vieille dame d'un ton conciliant.
Non, non, j'en suis parfaitement sûre, répondit le vieillard. Ce n'était pas une illusion, je venais à peine.
Eh bien, qu'as-tu donc ? Sa femme ne répondit pas. Elle était en train d'observer un homme aux allures bizarres qui regardait la maison d'un air indécis, comme s'il avait envie d'y entrer mais n'osait pas le faire. L'esprit encore obsédé par l'idée des 200 livres, elle remarqua qu'il était correctement vêtu et qu'il portait un chapeau de soie tout neuf. À 3 reprises, il s'arrêta devant le portail de la villa puis s'en éloigna à nouveau. La 4e fois, il posa la main dessus puis, semblant prendre une résolution subite, il le poussa et traversa l'allée qui conduisait à la maison. En un tour de main, Mrs. White se débarrassa de son tablier qu'elle dissimula sous un coussin et courut ouvrir. L'inconnu, qui paraissait fort gêné, la regarda à la dérobée en entrant. Il écouta d'un air préoccupé les explications qu'elle lui adressait pour s'excuser du désordre de la pièce où le ménage n'était pas encore fait et de la tenue de son mari qui portait sa blouse de jardin. Ces explications terminées, Mrs. White attendit, avec toute la patience que l'on peut attendre d'une femme, qui lui exposa le but de sa visite. Mais il semblait éprouver quelques difficultés à se décider.
« On m'a chargé, madame, » dit-il enfin en se baissant pour enlever un petit morceau de fil blanc qui s'était attaché à son pantalon. « Je viens de la part de la maison Moe et Meggins. »
La vieille dame sursauta.
« Il est arrivé quelque chose ? »
demanda-t-elle d'une voix haletante.
« Il est arrivé malheur à Herbert ? De quoi s'agit-il ? »
Son mari s'interposa.
« Allons, allons, mère, calme-toi !» lui dit-il très vite. « À quoi bon s'affoler ainsi ? Vous ne nous apportez pas de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, monsieur ?»
Et il regarda l'inconnu d'un air presque suppliant.
« Malheureusement, » commença le visiteur.
Il est blessé !
S'écria la mère, bouleversée. Le visiteur s'inclina en signe d'assentiment.
Grièvement blessé,
répondit-il d'une voix sans timbre.
Mais il ne souffre pas.
Oh, Dieu soit loué !
S'exclama la vieille dame en s'étreignant les mains.
Dieu soit loué, Dieu !
Elle s'arrêta net, frappé tout à coup par la sinistre signification de la réponse qu'on venait de lui faire. Et aussitôt, elle eut l'effroyable confirmation de ses craintes en voyant le visiteur se détourner. Suffoquée par l'émotion, elle revint à son mari, plus lent à comprendre, et posa sa vieille main tremblante sur la sienne. Il y eut un long silence.
« Il a été pris dans une machine, » expliqua le visiteur d'une voix sourde.
« Dans une machine ?» répéta Mr. White, hébété.
« Oui. »
Il regardait fixement par la fenêtre et au bout d'un instant, il prit la main de sa femme dans la sienne et la pressa avec force, comme il en avait l'habitude lorsqu'il se faisait la cour, 40 ans auparavant.
C'était le seul enfant qui nous restait,
dit-il en se tournant doucement vers le visiteur.
C'est dur.
L'autre toussa et se levant, marcha lentement jusqu'à la fenêtre.
Mes sœurs Mo et Meggins m'ont chargé de vous exprimer toute la part qu'ils prennent à votre douleur, dit-il sans se retourner. Veuillez considérer, je vous prie, que je ne suis que leur employé et que j'obéis strictement à leurs ordres.
Les vieux parents ne répondirent pas. Livides, les yeux exorbités, la malheureuse mère pouvait à peine respirer. Le père avait les traits aussi crispés que devait les avoir son ami le sergent le jour où il avait reçu le baptême du feu.
« Je suis également chargé de vous prévenir que la maison Mo et Meggins décline toute responsabilité, » continua le visiteur. « Elle ne se considère astreinte à aucune obligation, mais en considération des services rendus par votre fils, elle se propose de vous offrir une certaine somme à titre d'indemnité. »
Mr. White abandonna la main de sa femme et se levant, regarda le visiteur avec une expression horrifiée. Ses lèvres sèches articulèrent un seul mot.
« Combien ?»«
200 livres, » répondit l'autre.
Un imperceptible sourire passa sur la physionomie du vieillard, qui n'avait même pas entendu le cri déchirant poussé par sa femme. Étendant les mains en avant comme un aveugle, il s'écroula comme une masse sur le plancher. Chapitre 3. Après avoir conduit leur cher défunt à sa dernière demeure,
dans l'immense cimetière neuf situé à 2 miles de là, les deux pauvres vieillards s'en revinrent tristement chez eux dans la villa pleine d'ombre et de silence. Le coup avait été si brutal que tout d'abord ils eurent bien du mal à admettre que ce fût vrai et restèrent plongés dans une grave expectative comme si autre chose allait se produire, quelque chose qui allégerait leur fardeau trop lourd pour d'aussi pauvres cœurs. Néanmoins, les jours passèrent et cette expectative fit place à la résignation sans espoir des vieux, que l'on dénomme parfois à tort apathie. Il leur arrivait maintenant de passer des heures entières sans presque échanger un seul mot car, n'ayant plus rien à se dire désormais, leur existence était devenue si morne qu'ils ne se sentaient plus le courage de vivre. Environ 8 jours après, le vieillard, brusquement réveillé en pleine nuit, s'aperçut en étendant la main que sa compagne n'était plus à ses côtés. La chambre était plongée dans l'obscurité et du côté de la fenêtre, sa femme pleurait en étouffant ses sanglots. Il se dressa dans son lit et tendit l'oreille. « Viens, lui dit-il tendrement, tu vas prendre froid. »«
Il fait encore bien plus froid pour le petit, »
gémit la vieille en fondant à nouveau en larmes. Peu à peu, il perçut moins nettement les sanglots de sa femme. Le lit était chaud et il avait les yeux lourds de sommeil. Il passa dans des alternatives de veille et de somnolence et il venait de se rendormir lorsque, soudain, un cri déchirant poussé par sa femme le réveilla en sursaut.
« La main »
cria-t-elle d'une voix égarée.
« La main de singe !»
Il tressaillit et s'alarma aussitôt.
« Où cela ? Où est-elle ? Qu'est-ce qu'il y a ?»
Elle revint vers lui en butant contre les meubles.
« Je la veux !» « Je la veux, » dit-elle d'un ton plus calme. « Tu ne l'as pas détruite ?»«
Elle est dans le salon, sur l'étagère, » répondit-il, intrigué. « Mais que veux-tu en faire ?» Elle se mit à pleurer et à rire tout à la fois, et se penchant sur lui, elle l'embrassa sur la joue.
« Je viens seulement d'y repenser, » dit-elle nerveusement. « Comment l'idée ne m'en est-elle pas venue plus tôt ? Et toi, comment n'y as-tu pas songé ?»
« À quoi ?»«
Mais aux 2 autres souhaits, voyons, nous n'en avons formulé qu'un. »«
Ça ne t'a pas suffi ? »
gronda-t-il d'une voix farouche.
« Non, »
répliqua-t-elle triomphante.
« Nous allons en formuler encore un. Descends vite la chercher et souhaite que notre fils nous soit rendu. »
L'homme se dressa dans son lit et rejeta les couvertures étendues sur ses membres tremblants.
« Bon Dieu ! « Es-tu folle ? »
s'écria-t-il atterré.
« Va la chercher !» reprit-elle d'une voix haletante. « Va vite la chercher et fais un souhait ! Oh, mon fils, mon fils !»
Son mari frotta une allumette et alluma la bougie.
« Recouche-toi, »
lui dit-il d'un ton mal assuré.
« Tu ne sais pas ce que tu dis !»«
Notre premier souhait s'est bien réalisé !» dit fiévreusement la femme. « Pourquoi le second ne se réaliserait-il pas aussi ?»«
Simple coïncidence, »
balbutia le vieillard.
« Va-t'en chercher la main et fais un souhait !»
cria sa femme, toute frémissante d'expectative. Le vieillard se retourna vers elle, la regarda et lui dit d'une voix tremblante
« Mais voyons, il y a déjà 10 jours qu'il est mort et en plus de cela, il... Je ne te l'aurais jamais dit autrement, mais je n'ai pu le reconnaître qu'à ses vêtements. Il était dans un trop épouvantable état pour qu'on te le fasse voir à ce moment-là. Que serait-ce à présent ? Rends-le-moi !
S'écria Mrs. White en le traînant vers la porte.
Crois-tu donc que je pourrais avoir peur de l'enfant que j'ai mis au monde ?
Le vieillard descendit dans l'obscurité, gagna à tâtons le salon et y chercha l'étagère. La main de singe était à sa place et une peur horrible s'empara de lui à la pensée que, peut-être, avant qu'il ait pu s'échapper de la pièce, ce souhait, non encore formulé, ramènerait devant lui son fils mutilé. Une panique folle s'empara de lui quand il s'aperçut qu'il avait perdu la direction de la porte.
Le front baigné d'une sueur froide, il tâtonna autour de la table pour chercher son chemin et rasa le mur jusqu'à ce qu'il fût parvenu dans l'étroit couloir avec le diabolique fétiche dans sa main. Sa femme elle-même lui parut avoir changé de figure lorsqu'il rentra dans la chambre. Elle était toute blême et avait un air anxieux et pas naturel qui lui fit peur.
« Prononce le souhait !»
s'écria-t-elle d'une voix forte.
« C'est stupide, et c'est une chose qui ne doit pas se faire, » balbutia-t-il. « Prononce le souhait !»
répéta la femme. Il leva la main.
« Je désire que la vie soit rendue à mon fils. »
Il regarda avec effroi le talisman qu'il avait aussitôt laissé tomber à terre. Puis, il s'affaissa en tremblant sur un siège, tandis que sa femme, les yeux brillants de fièvre, s'approchait de la fenêtre et en remontait le store. Relevant de temps à autre les yeux sur sa femme qui guettait à travers la vitre, il resta ainsi immobile jusqu'à ce qu'il fût complètement transi de froid. La bougie, presque entièrement consumée dans le godet du chandelier de porcelaine, faisait danser par intermittence des ombres fantastiques sur le plafond et sur les murs. Puis, après avoir jeté une dernière flamme, elle expira tout à fait. Le vieillard, soulagé au-delà de tout ce que l'on peut dire par l'échec du talisman, se glissa à nouveau dans le lit et, une ou deux minutes après, sa compagne, avec des gestes d'automate, vint en silence l'y rejoindre. Sans prononcer un seul mot, ni l'un ni l'autre, ils restèrent tous deux immobiles, l'oreille tendue, écoutant le tic-tac de la pendule. Une marche de l'escalier craqua et, poussant un petit cri, une souris passa avec bruit dans un trou de mur. L'obscurité était oppressante et, rassemblant tout son courage, White prit la boîte d'allumettes, en enflamma une et redescendit au rez-de-chaussée pour chercher une autre bougie. Au pied de l'escalier, son allumette s'éteignit et il s'arrêta pour en frotter une seconde. Au même instant, un coup léger, presque imperceptible, fut frappé à la porte d'entrée. Les allumettes lui échappèrent de la main et s'éparpillèrent dans le couloir. Il resta immobile, retenant son souffle, jusqu'à ce qu'un deuxième coup fût frappé. Puis il enfila l'escalier, remonta 4 à 4 dans la chambre et en referma la porte derrière lui. Un troisième coup retentit dans la maison.
« Qu'est-ce que c'est ?»
s'écria la vieille en tressaillant.
« Un rat !»
dit-il en claquant des dents.
« Un rat ! Il est passé près de moi dans l'escalier !»
Dressé sur son séant dans le lit, sa femme écoutait. Un coup plus violent que les précédents résonna dans la maison.
« C'est Herbert !»
hurla Mrs. White.
« C'est Herbert !»
Elle voulut courir à la porte, mais plus prompte qu'elle, son mari la saisit par le bras et la retint solidement.
« Que vas-tu faire ? »
murmura-t-il d'une voix étranglée.
« C'est mon enfant ! C'est Herbert ! »
s'écria-t-elle en se débattant.
« J'avais oublié que c'était à 2 miles d'ici. Pourquoi me tiens-tu ainsi ? Lâche-moi, il faut que j'aille lui ouvrir la porte !»« Pour l'amour de Dieu, n'ouvre pas ! »
s'exclama le vieillard tout tremblant.
« Tu as peur de ton enfant ? »
dit-elle en continuant de se débattre.
« Lâche-moi ! J'arrive ! Herbert ! J'arrive !»
Un autre coup, puis un autre encore résonnèrent dans le silence. D'une secousse brutale, la vieille dame s'arracha aux mains de son mari et s'élança hors de la chambre. Son mari la suivit sur le palier et à plusieurs reprises, tandis qu'elle dévalait l'escalier, la supplia de s'arrêter. Il entendit la chaîne de sûreté retomber contre le mur et le verrou du bas, qui était un peu dur, sortir lentement de la vertenelle. Puis, de nouveau, la voix haletante et angoissée de sa compagne.
« Le verrou ! Le verrou ! »
criait-elle.
« Descends m'aider ! Je ne peux pas l'atteindre !»
Mais son mari s'était précipité à genoux sur le plancher de la chambre et cherchait désespérément autour de lui la main de singe. Si seulement il parvenait à la retrouver avant que cette chose qui était dehors eût réussi à entrer dans la maison.
Une succession ininterrompue de coups retentissait maintenant contre la porte d'entrée. Il entendit d'abord le bruit de la chaise que sa femme traînait le long du couloir et amenait contre la porte, et ensuite le grincement du verrou du haut, lentement repoussé. Au même moment, il retrouva la main de singe et, affolé par l'épouvante, bredouilla son dernier souhait. Les coups cessèrent subitement, bien que la maison fût tout ébranlée de leur écho. Il entendit reculer la chaise et s'ouvrir la porte. Une bouffée d'air froid s'engouffra dans l'escalier et un long gémissement douloureux et désappointé, poussé par sa femme, lui donna le courage de descendre la rejoindre, puis de l'accompagner jusqu'à la barrière du jardin. La lueur clignotante du réverbère en face éclairait la route, calme et déserte.